Dany Lucie Desrochers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, directeur général du Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique. Vous vous impliquez en tant que chercheur auprès des CRDI-TED du Québec. Et quand on m'a présenté à vous la première fois, on m'a dit « Ces travaux portent sur l'utilisation des technologies de soutien à l'autodétermination des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. » Et je vous avoue, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Mais au fond, en creusant davantage, je me rends compte que vous travaillez pour une meilleure qualité de vie pour ces gens-là. Plus simplement. Là.
Ben oui, absolument. Donc, c'est pour favoriser, d'utiliser les solutions technologiques qui sont là, qui sont disponibles actuellement, pour favoriser l'inclusion, la participation sociale des personnes, faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à un milieu résidentiel, avoir accès à un milieu de travail, qu'elles peuvent réaliser leurs tâches quotidiennes. Alors, on est véritablement dans cette perspective-là d'utiliser les solutions technologiques qui se sont développées à un rythme exponentiel depuis quelques années et pouvoir les utiliser au profit des personnes et favoriser leur favoriser les activités au quotidien.
Mm-hmm. Quand on parle de technologie d'assistance, qu'est-ce que l'on veut dire par là?
Bien, en fait, il y a un grand domaine des technologies d'assistance de façon très générale au niveau des personnes présentant un handicap. On dit que c'est un équipement qui permet à la personne handicapée de compenser une certaine incapacité ou handicap. Et ça, il y a plusieurs catégories d'assistance, de technologies d'assistance. Et parmi celles-ci, il y a des technologies d'assistance qui sont plus de haute technologie, qui sont donc ces technologies-là qui utilisent un ordinateur et qui permettent à la personne de compenser, par exemple, certaines limites. Si on pense, par exemple, aux personnes présentant une déficience intellectuelle qui ont un certain nombre de limites au niveau du langage, par exemple, de la lecture, de l'écriture, de la gestion du temps. Alors, les technologies, il y a plein de solutions et de logiciels et d'applications qui peuvent soutenir la personne qui présente, par exemple, une déficience intellectuelle dans son quotidien. Mm-hmm. On peut aussi avoir des technologies qui vont travailler au niveau des habiletés pratiques, par exemple, assister à la réalisation des activités de la vie quotidienne, faire un repas, faire ses tâches quotidiennes, comme par exemple faire son lavage, la sécurité, favoriser la sécurité des déplacements. Alors ça, c'est un grand domaine qui permet là, de soutenir les personnes présentant, par exemple, une déficience intellectuelle. Et au niveau du trouble du spectre de l'autisme, on va travailler beaucoup plus à l'utilisation des technologies, mais pour travailler les difficultés au niveau de la communication, des interactions sociales, pour travailler au niveau de la reconnaissance, par exemple, des expressions faciales ou développer les centres d'intérêt. Alors, il y a vraiment deux applications là, dans notre domaine actuellement.
Avec votre équipe, vous travaillez sur un appartement ou sur Oudan, un appartement intelligent. J'ai pu voir des vidéos un peu et visiter là, par l'entremise de ces petits reportages-là. Ça semble assez fascinant. Qu'est-ce que vous y testez, Dany Lucie Desrochers?
Bien, en fait, l'appartement intelligent est utilisé pour tester un certain nombre de technologies pour soutenir la vie quotidienne en milieu résidentiel. Uh-huh. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la réalisation des tâches. Par exemple, faire des tâches de cuisine, favoriser la sécurité du milieu résidentiel. C'est notamment nos cibles d'intervention actuellement. L'appartement, il y a plusieurs visées essentiellement. D'une part, c'est un environnement unique. Il n'y a pas d'appartements dans le monde actuellement qui sont utilisés dans la recherche dans le domaine social. Généralement, mm-hmm. ce type d'appartement intelligent-là est situé dans les départements d'informatique et d'ingénierie des universités et pas dans les départements de sciences sociales. Alors, notre focus à nous, c'est comment utiliser les technologies pour véritablement soutenir le quotidien des personnes. Et notre focus est encore plus précis, il est sur les technologies disponibles sur le marché. Donc, s'assurer que ce sont des technologies qui, demain matin, peuvent être achetées par la population, peuvent être achetées par des parents, des proches, ou des personnes elles-mêmes, mm-hmm. et qu'on peut implanter tout de suite dans le milieu résidentiel. Alors, l'appartement a véritablement cette vocation-là, d'une part, de tester un certain nombre de technologies, voir si ça fonctionne, est-ce que ça a du potentiel, est-ce que c'est intéressant
est-ce
pour les personnes.
Est-ce que ça plaît, oui.
Ben oui, est-ce que les personnes les aiment, les technos, est-ce qu'ils ont du sens pour eux. C'est aussi un lieu de formation, aussi, pour les intervenants. On a beaucoup de demandes des parents, des organismes communautaires aussi, qui viennent nous voir et qui veulent avoir de la formation sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un appartement pour soutenir les personnes. Mm-hmm. Et donc, il y a vraiment ces deux volets-là de recherche et d'intervention, de soutien et aussi la formation de la relève. En fait, on est à l'université, on forme des futurs psychoéducateurs. Donc, on travaille aussi dans le domaine de la formation pour que les intervenants de demain aient cette corde à leur arc, cette compétence-là, qui peut soutenir les familles et les personnes dans leurs interventions.
Vous me disiez que les outils que vous développez, vous vous assurez qu'elles peuvent être disponibles. Donc, la pomme de douche, par exemple, qui devient rouge quand c'est trop, quand l'eau est trop chaude, ou bleue, je pense, quand c'est trop froid, ça se trouve où, ça?
Bien, ça, on peut le trouver sur Internet. Et pour faciliter la recherche, parce que nous, un de nos objectifs, c'était aussi de dire comment les gens peuvent avoir facilement accès à ces outils-là. Parce qu'un des obstacles qu'on voit à l'utilisation de ce type de technologie-là, c'est la méconnaissance de ce qui est disponible sur le marché.
Oui.
Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a fait un livre électronique qui est disponible gratuitement sur Internet, mais qui fait l'inventaire des technologies en milieu résidentiel. Et dans ce livre-là, il est possible d'avoir une description de chacune de ces technologies-là et de même cliquer sur le lien et avoir accès tout de suite au site Internet pour faire l'achat de ce matériel-là.
Mmh. C'est ce qu'on appelle la vigie technoclinique?
La vigie technoclinique, non, c'est une autre chose. Mais celui-là, c'est le livre Inventaire des technologies de soutien à l'autodétermination en milieu résidentiel.
Okay.
Alors ça, en tapant ça sur Google, vous allez tomber sur le livre gratuit.
Ben, on le mettra aussi sur le site du Canalem,
Dani.
Donc, abordable, facile à trouver, accessible. Est-ce que c'est abordable?
Oui, aussi. C'est une de nos perspectives aussi, parce qu'on sait aussi que les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, notamment, ont pas nécessairement des revenus limités, en fait, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile de faire l'achat de ces technologies-là. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'est des solutions abordables. Je donne un exemple aussi là, concret, cadre photo numérique. Nous, dans notre quotidien, on l'utilise au bureau, à la maison, pour mettre les photos de voyage, les photos de famille. Mais pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, par exemple, on peut prendre le cadre photo numérique, le mettre dans la salle de bain et au lieu de mettre des photos de voyage, mettre les étapes pour faire le lavage.
Ah ben oui.
On peut aussi utiliser le même cadre photo numérique pour le mettre dans la cuisine et mettre les étapes pour faire, par exemple, un pâté chinois.
Mm-hmm.
Alors, ce sont des exemples concrets de technologies qui ne coûtent pas très cher. Ce cadre photo-là numérique est environ une cinquantaine de dollars. On a aussi d'autres technologies. Par exemple, on a des technologies plus domotiques qui sont disponibles là, maintenant sur le marché. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus dispendieux, mais maintenant, on peut avoir des appareils à une cinquantaine de dollars qu'on peut brancher sur nos appareils électriques et les contrôler à distance avec notre téléphone intelligent.
Ah oui, c'est fascinant, ça.
C'est hyper intéressant pour les personnes, par exemple, pour favoriser la sécurité en milieu résidentiel.
Mm-hmm.
Des fois, on peut peut-être se demander, est-ce que la personne a oublié le fer à repasser ou a oublié
la
un appareil
électrique?
Oui. Et donc, avec le téléphone intelligent, peu importe où on est dans le monde, on peut voir si dans l'appartement, la cafetière ou le fer à repasser est allumé et même l'éteindre directement avec le téléphone intelligent.
Mm-hmm.
Alors, pour les parents, c'est excessivement rassurant s'ils ont une personne, un proche qui a une déficience intellectuelle qui est en appartement, de pouvoir aussi interagir si jamais il se passe quelque chose. Mais pour vous et moi aussi, moi, je trouve ça intéressant d'avoir ça. Des fois, on se dit, est-ce que j'ai fait un oubli? Et les populations vieillissantes aussi, ça peut être des solutions technologiques hyper intéressantes pour elles.
Oui. Une autre chose qui me fascinait quand je voyais cet appartement intelligent-là, c'était cette application pour déterminer si un aliment est périmé dans le frigo.
Oui, oui.
Et je trouvais ça tellement ingénieux que je me disais, il a fallu que vous travailliez de concert avec les familles qui ont peut-être des membres au sein de leur famille qui ont une déficience intellectuelle. Vous avez demandé les besoins.
Oui, en fait, exactement. Ce type de technologie-là, donc, que vous avez vu là sur les aliments périmés, c'est une technologie là, qui est disponible là, sur le marché. Là, c'est des applications qui sont disponibles. Mais effectivement, tout notre créneau de recherche, peu importe le type de technologie qu'on utilise, est fait directement avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Un bon exemple, c'est l'application Marty. C'est une application pour téléphone intelligent qui a été développée par notre équipe. Et c'est une application qui soutient les personnes dans leur quotidien pour les aider à faire des tâches, pour les aider en milieu de travail, mais qui a été développée avec une collaboration avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Mm-hmm.
Ils ont identifié leurs besoins, ils ont identifié ce qu'ils avaient le goût d'avoir et on a développé l'application avec une firme de Trois-Rivières qui était centrée sur leurs besoins.
Mm-hmm.
Même exemple pour le site Abilnet qu'on a aussi développé. C'est un site Internet qui est simplifié pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Il a été développé avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ils ont choisi le design, ils ont choisi les contenus, ils ont choisi le format. Et c'est à partir de là. Donc, on travaille en étroite collaboration. Et pour nous, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, les parents, les proches sont des collaborateurs hyper importants pour réaliser nos recherches.
Oui, et c'est important qu'ils soient impliqués pour après bien l'utiliser parce que parfois, ça peut être des défis pour eux d'utiliser ces technologies.
Ah, absolument. Et c'est une des raisons aussi qu'on va beaucoup dans les technologies disponibles sur le marché parce qu'ils ont quand même une facilité d'utilisation, contrairement aux environnements domotisés qui demandent la présence d'un technicien pour faire l'installation ou la réparation ou l'entretien. Nous, on vise véritablement des technologies qui sont faciles d'utilisation. Et on a beaucoup de collaboration avec le personnel des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Alors, on travaille beaucoup avec eux pour l'implantation des technologies et on travaille aussi sur la formation, l'information. Ce sont des éléments importants qui vont favoriser le déploiement des technologies. Alors ça aussi, on collabore étroitement avec les intervenants et les professionnels aussi.
Et ça doit changer pour ces intervenants-là l'approche avec cette clientèle énormément.
Oui, absolument. Puis ça vient ajouter une dimension. En fait, même bien que je sois un professeur en technologie, un chercheur sur les solutions technologiques, je ne crois pas que la technologie est la solution à tout prix pour toutes les problématiques. Je crois que la technologie est un outil supplémentaire qui vient s'ajouter au processus et aux techniques d'intervention qu'on a actuellement. On a un nouvel outil et ce sont les technologies. Alors moi, je trouve ça intéressant de dire aux gens, des fois, là, on peut juste regarder, faire une analyse précise des besoins et se dire, est-ce qu'il y a une solution technologique qui est utilisable? Oui. Et si on peut aussi regarder quels sont les aménagements physiques aussi qu'on peut faire à l'intérieur de l'environnement. Meilleur exemple, c'est dans l'appartement intelligent. Des fois, je fais des analyses de besoins, puis des gens me disent, j'ai besoin d'un soutien pour faire mes recettes. Oui, il peut y avoir une technologie qui va donner les étapes de la recette, mais ça va être aussi d'organiser la cuisine pour qu'elle soit aidante. On va mettre les chaudrons à un endroit spécifique, on va mettre les ustensiles à un endroit logique dans la maison et on va essayer d'organiser aussi l'environnement pour que les personnes puissent s'y retrouver et donc combiner à la fois l'intervention physique et l'intervention technologique. C'est dans ce créneau-là que je pense qu'on obtient les meilleurs résultats.
Dany Lucier-Desrochers, on parle de ces outils formidables que sont la technologie pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mais parfois, et vous avez écrit un texte super dans la presse publié le 3 décembre dernier, l'exclusion numérique, ça peut devenir un frein.
Oui, c'est effectivement une de nos grandes préoccupations. On remarque qu'en lien avec les technologies, c'est pas aussi visible. Puis, l'exemple que je donnais dans l'article, justement, c'est pas aussi visible qu'une rampe d'accès absente devant un bâtiment où on n'a qu'un escalier. Une personne en fauteuil roulant ne pourrait pas avoir accès au bâtiment à cause de ça. Mais dans le domaine technologique, on vit exactement la même chose. Des sites Internet qui sont présentés uniquement avec de l'écriture, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est la même chose qu'une absence de rampe d'accès devant un bâtiment. Elles sont incapables d'accéder à l'information. Et dans une société du numérique comme actuellement, une société où on mise de plus en plus sur la part des technologies, je donne un exemple, dans nos municipalités, par exemple, on va avoir de l'information sur un règlement municipal, la municipalité va nous référer à leur site Internet pour avoir accès à de l'information, à des concours aussi pour la communication et l'établissement des réseaux sociaux via Facebook, par exemple. Bien, il faut avoir accès aux technologies. Et donc, l'exclusion arrive là de par le fait que, notamment, les personnes ont peu de moyens financiers et que les technologies coûtent cher. Et d'autre part, c'est que les concepteurs de sites Internet, les gens qui développent la technologie, il faut aussi qu'ils pensent aux besoins de ces personnes et qu'ils intègrent des composantes d'accessibilité à l'intérieur des technologies pour que les personnes y aient accès, parce que sinon, on est en train d'exclure une fois de plus les personnes de ce nouveau média-là.
Tout à l'heure, on parlait avec Robert Savard, lui, des services technologiques adaptés du côté de l'INCA, et il déplorait Microsoft, cette immense entreprise qui exclut sur bien des facettes les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Dany Lucier-Desrochers, le temps file, alors j'aimerais que vous nous rappeliez le titre de ce livre-là, cette brique pour trouver tous les sites accessibles pour les achats.
Ça s'appelle « Inventaire des technologies de soutien à l'autodétermination en milieu résidentiel ». C'est sur iTunes, donc vous pouvez taper le nom ou taper Dany Lucier-Desrochers sur iTunes et vous allez avoir accès au livre.
Et il y a aussi le registre, la Vigie Technoclinique.
Absolument.
Oui. uqtr.ca-technoclinique, ça peut être bien pour
Oui.
se retrouver dans tout ça.
En allant sur le site Technoclinique, celui que vous venez de mentionner, vous allez avoir accès à tous les documents, toutes les ressources qu'on a développées au cours des années.
C'était extrêmement inspirant de parler avec vous, Dany
Lucier-Desrochers.
Je rappelle, vous êtes professeur en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et directeur général du Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique. Continuez à travailler pour nous et les gens qui vivent avec certaines limites pour que ça continue, que les technologies continuent à être accessibles pour eux, parce que ça fait plaisir de vous entendre.
Ah, ben, je vous remercie beaucoup.
Joyeux temps des fêtes à vous.
À vous aussi.
Au revoir.
Bye-bye.